une tentative de meurtre sur un policier. Une fusillade reliée à la vente de drogue. Un violent braquage de banque. Un gang de dangereux criminels menace toute une communauté. Les agents du FBI et un ex-policier mettront leur vie en jeu lors d'une opération spéciale pour retrouver les bandits. La ville de Camden, au New Jersey, est située juste en face de Philadelphie, de l'autre côté du fleuve Delaware. C'est l'une des villes les plus défavorisées d'Amérique et où le taux de criminalité est le plus élevé. Le 12 février 1997, l'agent Stephen Leoni effectuait sa patrouille. Il était 4h20 du matin. L'agent s'arrêta pendant un moment pour s'occuper de quelques tâches administratives.
J'ai alors entendu des coups de feu qui provenaient du secteur est de Camden, plus de 50 coups. Ce n'est pas inhabituel d'entendre des coups de feu à Camden. J'essayais de déterminer dans quel coin c'était arrivé avant de transmettre la nouvelle aux autres unités de patrouille pour éviter que les policiers parcourent la ville en tous sens.
L'agent Leoni se dirigea vers l'endroit d'où provenaient les coups de feu. Les rues étaient désertes. Il vit alors une voiture suspecte. Il la prit en filature.
Le conducteur a semblé s'apercevoir qu'une voiture de patrouille le suivait et il a viré à gauche. Je me suis penché sur mon siège. Et quand je me suis relevé, j'avais un goût de sang dans la bouche.
L'agent Leoni avait été touché au visage. Il parvint tant bien que mal à descendre de son véhicule.
Je suis descendu de la voiture pour me cacher derrière le véhicule, au cas où mes assaillants seraient toujours dans le secteur. Je savais que j'avais reçu un projectile en plein visage et que j'étais blessé, mais j'ignorais la gravité de cette blessure. J'ai appelé à la centrale pour signaler qu'un agent avait été touché.
En moins de quelques minutes, des policiers de Camden et des équipes de secours arrivèrent sur la scène du crime. Malgré ses blessures, l'agent Leoni décrivit aux policiers la voiture de l'homme qui avait fait feu sur lui. Les ambulanciers tentèrent ensuite de stabiliser son état avant de le conduire à l'hôpital le plus près. Des fragments de projectiles s'étaient logés dans le visage du policier.
J'en avais trois dans le cuir chevelu, un dans l'orbite gauche et un autre dans l'orbite droit et un petit morceau dans le nez. Je suis chanceux de ne pas avoir perdu la vue.
Les ambulanciers conduisirent l'agent Leoni à toute vitesse à l'hôpital. Pendant ce temps, les enquêteurs ratissèrent la scène du crime à la recherche d'indices. Voici Lee Salomon, le procureur de Camden County.
Quand un type a le culot de tirer sur un policier, on mobilise toutes nos ressources, et ce, le plus vite possible.
Les experts ratissèrent les environs à la recherche de la voiture du tireur. Des policiers furent alors dépêchés à une maison voisine de la scène du crime. Un homme avait entendu des coups de feu plus tôt en soirée. La porte d'entrée était criblée de trous de projectiles. Selon l'homme, quelqu'un avait essayé d'entrer chez lui par effraction plus tôt dans la soirée. L'homme avait saisi son arme à feu. Les intrus l'avaient entendu se déplacer dans la maison et avaient ouvert le feu. L'occupant de la maison avait riposté, forçant ainsi ses assaillants à partir. Les policiers croyaient que cette attaque était ce qu'on appelle dans le milieu un vol de style ninja. Des hommes au visage masqué entrent dans une maison pour y voler des drogues ou de l'argent. Plus de 50 projectiles avaient été tirés dans la maison.
Une des balles avait traversé un mur, un frigo et ensuite le mur arrière de la maison. On ne l'a jamais retrouvée. Une autre avait traversé le plafond, le plancher de l'étage supérieur et le toit. On ne l'a jamais retrouvé non plus. Ces types avaient des armes à feu très puissantes et ça nous inquiétait.
Plus tard, au cours de la matinée, les policiers trouvèrent une voiture abandonnée. Elle correspondait à la voiture décrite par l'agent Leoni.
Il y avait des fragments de verre, des douilles de projectiles provenant d'une AR-15 et d'un pistolet de calibre 45 trouvé dans le véhicule. On a aussi relevé des traces de sang.
Ainsi, un des assaillants avait été touché. Un policier vérifia le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture. Elle appartenait à une femme du quartier. Un chien de l'escouade canine flaira une odeur dans la voiture et en suivit la trace jusqu'à l'adresse de la propriétaire du véhicule.
C'était à seulement 2 ou 3 pâtés de maison de l'endroit où j'avais été blessé.
Une unité SWAT se préparait à prendre la maison d'assaut au cas où les tireurs se trouveraient encore à l'intérieur.
On a fait fermer l'école élémentaire non loin de là parce qu'on craignait qu'il y ait échange de coups de feu avec ces individus lourdement armés.
Dans l'appartement, on ne trouva aucune trace des tireurs. Les membres de l'unité SWAT trouvèrent toutefois la propriétaire du véhicule abandonné. Ils apprirent qu'elle était la petite amie de Charlie Rodriguez, un des criminels les plus violents de Camden. Entre 1984 et 1989, Charlie avait été arrêté pour possession illégale d'armes et de drogue, de même que pour avoir proféré des menaces terroristes.
Crazy Charlie était un type prêt à tout. Il n'y avait rien à son épreuve. C'était le genre d'homme qui oserait tirer sur un policier, sur une personne âgée ou sur un enfant sans aucun scrupule.
L'unité SWAT ne trouva aucune trace du tireur. Les policiers fouillèrent les lieux et interrogèrent la petite amie du suspect. Celle-ci déclara qu'elle se trouvait à son lieu de travail au moment de la fusillade et qu'elle avait signalé le vol de sa voiture. Les enquêteurs fouillèrent sa maison et relevèrent des traces de sang. Ils firent venir des experts pour qu'ils puissent recueillir des échantillons. Les enquêteurs quadrillèrent le secteur et interrogèrent les voisins de la petite amie du suspect. Ils tombèrent alors sur quelqu'un qui avait aperçu des hommes quitter la maison de la jeune femme très tôt ce matin-là. Après avoir examiné des photos, le témoin identifia l'un de ces hommes. José Baez, en libération conditionnelle, après avoir été incarcéré pour un homicide involontaire coupable et pour avoir eu en sa possession des armes à feu. Les policiers trouvèrent Baez à son appartement de Deptford, au New Jersey. Le suspect fut rapidement mis en détention provisoire. Les enquêteurs remarquèrent une blessure à la main du suspect.
Un projectile l'avait atteint et il avait tenté de recoudre la plaie lui-même.
Les policiers arrêtèrent Baez pour violation des conditions de sa libération et pour prélever un échantillon de son sang. Au labo, son sang fut comparé à celui qu'on avait recueilli dans l'affaire de la fusillade.
Ils ont pu démontrer qu'il était celui qui avait laissé les traces de sang dans la maison et le véhicule.
Les enquêteurs détenaient maintenant une preuve que Baez se trouvait dans la voiture au moment où l'agent Leoni avait été blessé. Mais rien ne démontrait que c'était lui qui avait appuyé sur la détente. Au début, Baez refusa de parler aux autorités. Mais après 2 semaines de détention, il accepta finalement de rencontrer les enquêteurs.
Jose, you already read your rights, so I have to go over that with you. I'm an investigator with Camden County and I'm trying to figure out information about the shooting. Okay?
Baez accepta finalement de parler, mais à la condition que la police protège sa famille. Il déclara que Charlie Rodriguez avait participé au vol de style ninja, de même qu'à la fusillade au cours de laquelle l'agent Leonie avait été blessé.
Je crois que Baez a collaboré avec nous parce que Charlie avait menacé sa famille. C'est parce qu'il avait peur qu'il s'est montré si coopératif.
Le bureau du procureur de Camden County obtint alors un mandat d'arrêt contre Charlie Rodriguez pour avoir tenté de tuer un policier. On offrit également une récompense de $1,000 à quiconque fournirait des informations menant à l'arrestation du suspect. La police d'État ajouta le nom de Charlie Rodriguez à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés.
On le cherchait tous les jours. Tous les patrouilleurs de Camden étaient à la recherche de Charlie Rodriguez.
Même si Charlie était bien connu à Camden, les habitants de la ville le craignaient trop pour parler aux policiers.
La peur est une arme puissante pour un type comme Charlie Rodriguez.
Au cours du mois suivant l'affaire Leonie, les policiers interrogèrent leurs informateurs, mais tout ce qu'ils apprirent, c'était que Charlie se cachait quelque part de l'autre côté du fleuve, à Philadelphie. Comme on soupçonnait Charlie d'avoir fui dans un autre état, la police fit appel à l'aide du FBI. Après avoir obtenu un mandat d'arrêt fédéral, l'agent John Tam fut chargé de la chasse à l'homme pour retrouver Charlie Rodriguez.
Je commence par me procurer de bonnes photos, puis j'examine le dossier criminel du suspect et son dossier de prisonnier pour voir qui étaient ses compagnons de cellule, qui lui a rendu visite pendant son incarcération, afin d'identifier avec qui il aurait été en contact.
Les agents du FBI tendirent un immense filet. Mais comme les policiers, ils découvrirent que les gens avaient trop peur pour parler.
Charlie Rodriguez avait la réputation d'être un tueur sans pitié. Les gens étaient très prudents quand il s'agissait de parler de lui.
Les agents mirent alors la petite amie de Charlie sous surveillance, en espérant qu'elle les conduirait à lui.
Rodriguez était assez rusé pour ne pas entrer en contact avec sa petite amie. Ça ne nous a donc pas aidés.
Au cours des mois suivants, les agents continuèrent à interroger leurs informateurs. Ils apprirent bientôt que Charlie se cachait dans les Badlands, un quartier très violent de Philadelphie.
C'était un quartier très dur où il y avait beaucoup de ventes de drogue. Les gens qui vivaient là étaient constamment intimidés par des criminels. C'était très difficile d'y trouver un fugitif parce qu'il était quasi impossible d'obtenir de la coopération de qui que ce soit.
Les unités SWAT fouillèrent les immeubles des Badlands où l'on soupçonnait Charlie de se cacher.
On a fait appel au groupe d'intervention spéciale. On est arrivé à 5 heures du matin et on a fait une descente. On a capturé un criminel, mais ce n'était pas Charlie Rodriguez. On a finalement arrêté quelqu'un qui était recherché pour un autre crime.
Au même moment, dans les rues non moins sécuritaires de Camden, le FBI menait une enquête pour une autre affaire. L'agent spécial Jim Walsh obtint alors un tuyau.
On a alors appris que Charlie Rodriguez, son frère Joseph et d'autres types projetaient de commettre un vol de banque ou de s'attaquer à un fourgon blindé sous peu.
Joseph Rodriguez avait déjà été reconnu coupable de meurtre lors d'une fusillade pour une affaire de drogue dans les années 90. 2 adolescents avaient alors été abattus sur un coin de rue à Camden Sud.
Selon un informateur, Charlie et Joseph Rodriguez ciblaient une banque en particulier dans la ville voisine de Woodland, au New Jersey. Les agents constituèrent des équipes de surveillance. Si les frères Rodriguez s'attaquaient à cette banque, la police serait prête à les arrêter. Malheureusement, les semaines passèrent sans aucun signe des voleurs.
On n'a pas pu maintenir la surveillance plus longtemps car on manquait de personnel. Environ un mois et demi plus tard, on a cessé la surveillance.
Le 19 juillet 1997, quelques semaines après la fin de l'opération de surveillance, plusieurs hommes lourdement armés s'attaquèrent à la banque de Woodland. Un caissier était paralysé de peur. Deux des voleurs forcèrent une caissière à vider les tiroirs-caisses. Les autres voleurs surveillaient l'entrée et indiquaient régulièrement à leurs complices combien de temps s'était écoulé depuis leur arrivée. Un voleur tenta de forcer la directrice à ouvrir la porte de la chambre forte. Celle-ci lui répondit qu'elle ne pouvait pas le faire. La chambre forte était branchée sur une minuterie. Il lui dit alors qu'elle devait ouvrir la chambre forte, sans quoi il la tuerait. Au New Jersey, des coups de feu tirés sur un policier de Camden avaient entraîné le FBI dans une chasse à l'homme à la recherche d'un violent ex-prisonnier du nom de Charlie Rodriguez. Cinq mois plus tard, trois hommes armés de fusils semi-automatiques avaient pris d'assaut une banque de Woodland au New Jersey. La directrice de l'établissement ne pouvait ouvrir la chambre forte car celle-ci était branchée sur une minuterie. Un des voleurs menaça de la tuer. Les voleurs n'avaient plus assez de temps. Ils devaient s'enfuir avant l'arrivée des policiers. La directrice eut la vie sauve. Les agents John Tam et Jim Walsh du FBI firent enquête. Les clients et les employés de la banque étaient terrifiés. L'agent spécial Jim Walsh.
Ces gens étaient en état de choc. Une femme a dû être transportée à l'hôpital. Elle a eu si peur qu'elle a eu une petite attaque cardiaque. À voir le caractère violent de ce braquage, j'ai immédiatement su que c'était Charlie Rodriguez et son frère.
Les agents et les policiers mirent les ponts de Philadelphie et l'autoroute du New Jersey sous surveillance, mais on ne trouva aucune trace des frères Rodriguez. Joseph Rodriguez vivait à Camden, mais le FBI ne disposait pas d'assez d'indices pour l'arrêter. Et les agents le mirent sous surveillance en espérant qu'il les conduirait à Charlie.
Il s'était bien rendu compte qu'on pouvait remonter jusqu'à son frère par son intermédiaire et ils ont donc décidé de se tenir loin l'un de l'autre.
Au cours des sept mois suivants, le secteur de Camden fut la proie d'une série de vols de banque. On soupçonnait les frères Rodriguez, même si les policiers ne tenaient aucune preuve formelle de leur implication. Morristown, au New Jersey. Une ville dortoir, au nord de Camden. Le 23 mai 1998, plus d'un an s'était écoulé depuis les coups de feu qui avaient blessé l'agent Leonie. Trois hommes arrivèrent à une banque de Morristown juste avant 8h30. Ils étaient armés de fusils d'assaut et de mitraillettes. Les portes de la banque n'avaient pas encore été déverrouillées. Les voleurs avaient perdu un temps précieux. Ils se rendirent compte qu'un employé de la banque avait sans doute déclenché l'alarme silencieuse. Deux des voleurs forcèrent les caissières à vider leur tiroir-caisse. Un troisième tireur surveillait l'entrée et indiquait régulièrement à ses complices combien de temps s'était écoulé. Les voleurs étaient nerveux. Ils trouvaient que les caissières n'allaient pas assez vite. Les voleurs effrayèrent une caissière qui arrivait en retard. La voiture des voleurs ne démarrait pas. Pris de panique, ils ordonnèrent à la caissière de leur remettre les clés de sa voiture. Ils prirent la fuite dans la voiture de la caissière. À en juger par le comportement des voleurs, les agents Tam et Walsh étaient d'avis qu'il s'agissait vraisemblablement des frères Rodriguez. Ils obtinrent d'autres indices en examinant les photos tirées des enregistrements des caméras de surveillance. Les armes, les cagoules, même certains vêtements ressemblaient à s'y méprendre à ceux que portaient les voleurs de la banque de Woodland.
Les photos démontraient qu'ils portaient des vêtements identiques dans les deux cas.
Mais les deux agents n'avaient pas encore de preuves concluantes leur permettant de faire accuser les deux frères Rodriguez de vol de banque. Le comportement des voleurs semblait s'être modifié. Ils devenaient de plus en plus violents.
Ce gang était de plus en plus brutal. Quelqu'un allait éventuellement être tué, soit un employé de banque, soit un client, soit un policier dépêché sur les lieux. Quelqu'un allait être tué tôt ou tard, c'était inévitable.
Les agents Tam et Walsh rencontrèrent alors les services de police de toutes les villes du secteur pour leur décrire la façon de procéder des voleurs. À la fin du mois de juillet 1998, l'agent Tam obtint une piste prometteuse de la part du lieutenant Roy Whitmore du service de police de Merchantville au New Jersey.
Il a dit « Un de mes contacts est un ami d'enfance de Rodriguez et il connaît très bien son frère aussi. Il pourrait nous aider à savoir où se cache Crazy Charlie Rodriguez. »
Un an et demi après le début de l'enquête, le FBI pouvait enfin miser sur quelqu'un qui pourrait fournir des informations sur Charlie Rodriguez.
Ça a été notre plus grand coup de chance parce que, depuis le début, on était dans le noir et on cherchait quelqu'un qui coopérerait avec nous et qui saurait où était Rodriguez. Le lieutenant Whitmore a organisé une rencontre avec ce type afin qu'on mette au point un plan pour faire sortir Charlie Rodriguez de sa tanière à Philadelphie.
L'informateur était un ex-policier qui avait dû démissionner à cause de délits mineurs relatifs à la possession d'armes à feu.
Je l'ai trouvé intelligent, très articulé, si l'on tenait compte du fait qu'il avait grandi dans un environnement urbain très dur. Il m'a semblé honnête et fiable.
L'informateur déclara qu'il voulait arrêter Charlie avant qu'il tire sur quelqu'un, et plus particulièrement sur un policier, et qu'il le tue.
On a parlé de sa relation avec Joseph Rodriguez.
Les agents croyaient que Joseph devait forcément être en contact avec son frère pour planifier leur vol.
Je lui ai suggéré de demander à Joseph s'il avait eu des nouvelles de son frère, s'il était en contact avec lui, et si oui, à quelle fréquence ils se parlaient. On espérait que ces informations nous aideraient à retracer Charlie Rodriguez.
Les agents Tam et Walsh mirent un plan au point pour encourager Charlie à sortir de sa cachette. Il savait que l'ex-policier avait déjà vendu des armes.
Il avait travaillé pour un armurier, et c'était un fait connu dans le milieu, à Camden Sud.
L'ex-policier avait toutefois perdu le droit de posséder ou de vendre des armes à feu. Les agents décidèrent de se servir du passé de leur informateur pour lui donner une couverture.
Il irait rencontrer Joseph Rodriguez et lui demanderait s'il ne serait pas intéressé à acheter un pistolet. On pensait que ce serait un bon prétexte. Il ferait croire à Rodriguez qu'il avait décidé de faire son entrée dans le monde criminel.
Je savais que ça intéresserait Charlie Rodriguez. Les criminels cherchent toujours à se procurer de nouvelles armes. Ils peuvent ainsi se départir de celles qu'ils ont utilisées et se servir de nouvelles armes que l'on ne pourra pas relier à leurs crimes antérieurs.
L'ex-policier accepta de parler à Joseph lors d'une réunion de famille prévue quelques jours plus tard. Au début, Joseph sembla méfiant.
Joseph savait qu'il avait été agent de police et qu'il avait dû démissionner. L'ex-policier s'est servi de ça pour l'aborder. Il a dit « J'ai été renvoyé pour les mauvaises raisons, ils m'ont fait la vie dure. Au diable les forces de l'ordre. »
Quelques jours plus tard, Joseph contacta l'ex-policier pour convenir d'un moment pour le revoir.
Joseph lui a dit qu'il en avait discuté avec Charlie et que celui-ci était intéressé à acheter un pistolet. On progressait enfin dans cette enquête. On savait que Charlie Rodriguez était dans les parages.
L'agent Tam dit alors à l'ex-policier qu'il devait s'organiser pour rencontrer Charlie en personne.
Joseph Rodriguez était prêt à acheter cette arme et à la remettre plus tard à Charlie Rodriguez. Mais ça ne nous avancerait guère. J'ai donc clairement spécifié à notre informateur qu'il devait remettre l'arme à Charlie Rodriguez lui-même et qu'on en profiterait alors pour l'arrêter.
Le FBI n'avait nullement l'intention de laisser quelqu'un vendre une arme à feu à l'un des frères Rodriguez. L'ex-policier se rendit à l'appartement de Joseph pour mettre au point la transaction.
Notre informateur prenait de gros risques. Il aurait été tué immédiatement, à mon avis, si Charlie ou Joseph Rodriguez avaient découvert qu'il collaborait avec nous.
Camden, au New Jersey, en 1998. Un ex-policier participait à une dangereuse opération secrète organisée par le FBI. Charlie Rodriguez, aussi connu sous le nom de Crazy Charlie, était soupçonné d'avoir fait feu sur un policier et d'avoir commis plusieurs vols de banque. L'ex-policier tentait de s'infiltrer dans la bande de Charlie en proposant de lui vendre des armes à feu. L'informateur rencontra le frère de Charlie. Joseph Rodriguez, qui avait déjà été incarcéré pour homicide involontaire, le fouilla pour voir s'il y avait des micros sur lui.
On n'avait mis aucun matériel d'enregistrement sur lui car on craignait qu'il serait tué si quelqu'un le trouvait.
Lentement, mais sûrement, par le biais d'une série de rencontres, l'ex-policier finit par gagner la confiance de Joseph. L'informateur révéla aux agents du FBI John Tam et Jim Walsh que Joseph lui avait même demandé conseil sur la meilleure façon de s'y prendre lors d'un prochain vol.
Je lui ai dit, c'est une excellente idée. Tu pourrais même lui dire que tu es intéressé à y participer. Je pensais que ça nous permettrait de savoir où ils se rencontraient et qu'on pourrait ainsi intervenir avant qu'ils ne passent à l'acte.
L'ex-policier ajouta que Charlie Rodriguez était en train d'organiser son plus gros coup jusque-là et qu'il espérait mettre la main sur un butin d'au moins 100 000 $.
J'ai dit, eh bien, on va leur faire une suggestion. S'ils veulent voler quelqu'un, on va leur fournir la cible.
Les agents Walsh et Tam planifièrent une arnaque pour attirer Charlie Rodriguez sans mettre quiconque en danger.
La clé dans cette affaire, c'était d'avoir de la crédibilité. Le criminel doit croire au scénario qu'on lui présente. Il y aurait de l'argent dans ce scénario. Il y aurait une belle occasion. Il fallait que tout cela soit plausible pour qu'il décide d'aller de l'avant avec ce plan. J'ai proposé qu'on les amène à voler le fourgon blindé qui alimentait un guichet automatique près du New Jersey Turnpike. Ainsi, on serait dans un environnement sécuritaire parce qu'on pourrait isoler la halte routière où se trouvait le guichet automatique, ce qui nous permettrait de les capturer.
Les agents Tam et Walsh choisirent l'endroit qui leur convenait le mieux.
On a choisi l'aire de repos près de Cherry Hill. Cette aire était située en contrebas des habitations tout autour. Ainsi, s'il y avait des coups de feu, les projectiles seraient bloqués par les parois rocheuses et ne s'éparpilleraient pas partout.
Le plus important pour nous, c'était qu'à cet endroit, on aurait moins de mal à contrôler la situation.
L'informateur fit sa proposition à Joseph. Celui-ci évalua soigneusement le plan.
Il a rencontré Joseph Rodriguez et il lui a dit qu'un conducteur de fourgon blindé qu'il connaissait accepterait de les aider, car il était criblé de dettes de paris sportifs et de jeux d'argent. Il le ferait à condition de toucher sa part du butin.
L'ex-policier ajouta que le chauffeur du fourgon serait leur complice et que le fourgon blindé contiendrait plus de 200 000 $. Deux jours plus tard, Joseph contacta l'ex-policier de nouveau pour lui faire part de ce qu'ils avaient décidé.
Joseph Rodriguez a dit « Charlie croit que c'est une excellente idée, on peut commencer à planifier ce coup ».
Joseph dit qu'il voulait aller examiner l'aire de repos avec un troisième complice. Ce changement de plan inquiéta l'ex-policier.
Joseph a dit « Ne t'en fais pas, tu peux lui faire confiance ».
Le troisième complice s'appelait José Soto.
Soto avait un lourd casier judiciaire. Il avait été reconnu coupable d'homicide au second degré et il était en libération conditionnelle. Ils se sont rendus à l'aire de repos pour voir s'ils pourraient facilement voler le fourgon à cet endroit.
Il y avait une voie de service à l'arrière de l'aire de repos. Ça leur permettrait d'arriver et de repartir sans jamais avoir à aller sur l'autoroute.
Ils savaient qu'ils pourraient facilement s'enfuir sans être vus par qui que ce soit. Les voleurs aimaient tout de cet endroit. Et au FBI, on l'aimait tout autant parce que ça nous permettrait de les isoler sans qu'ils puissent s'enfuir. Ainsi, la population ne courrait aucun danger s'il devait y avoir des coups de feu ou quoi que ce soit d'autre.
Joseph fit le tour de l'aire de repos en empruntant l'itinéraire du fourgon blindé quand il venait alimenter le guichet automatique.
Joseph Rodriguez s'était bien familiarisé avec les lieux et il était à l'aise. C'est d'ailleurs lui qui a vendu l'idée à Charlie. Notre informateur n'a même pas eu à le faire.
L'informateur avisa le FBI que Charlie Rodriguez, la cible de l'arnaque organisée par les agents, avait approuvé le coup. Le vol était prévu pour le 27 août. Maintenant que le plan était en action, le FBI contacta le service responsable de l'autoroute et de l'aire de repos, c'est-à-dire la police de l'État du New Jersey. L'agent Tam mit le lieutenant-colonel Robert Dunlop au fait de la situation. Les patrouilleurs devraient bloquer l'accès de tout le secteur et l'autoroute pour protéger les automobilistes.
Il y a toujours des hélicoptères des chaînes télé et radio qui survolent les routes et qui auraient signalé aux auditeurs que l'autoroute était bloquée. Pour que le plan fonctionne, on devait bloquer l'accès à l'aire de repos seulement quelques instants avant l'arrivée des suspects pour éviter de semer la panique.
Les unités SWAT seraient postées aux entrées de l'autoroute et dans les bâtiments de l'aire de repos. Trois jours avant la date prévue du vol, les agents Tam et Walsh organisèrent une réunion entre le FBI et les chefs des unités SWAT afin de revoir le plan de l'arrestation des frères Rodriguez et de Soto.
On savait qu'ils seraient lourdement armés et, du moins dans le cas de Charlie Rodriguez, qu'ils n'hésiteraient pas à faire usage de leurs armes s'ils étaient piégés.
On projetait d'évacuer l'aire de repos quelques minutes avant l'arrivée de la bande de Rodriguez. L'informateur du FBI se garerait derrière l'aire de repos et se rendrait ensuite à pied devant le bâtiment principal pour ne pas être dans la ligne de tir. Les membres de l'unité SWAT seraient cachés dans un camion de livraison. Ils seraient couverts par des tireurs d'élite postés sur le toit du bâtiment.
Une remorqueuse conduite par un agent du FBI devait emprunter la voie d'accès. L'agent devait emboutir la voiture des Rodriguez à cet endroit précis afin de les empêcher de s'enfuir.
Une fois les voleurs pris au piège, l'unité SWAT pourrait procéder à leur arrestation.
Le plan était solide, dans le sens que si ces types avaient le moindre bon sens, ils se rendraient.
Le 27 août 1998, les agents et les policiers se réunirent à l'aire de repos. Le piège était en place.
Crazy Charlie était considéré comme un criminel très dangereux et imprévisible. Je crois que tous ceux qui participaient à cette opération savaient bien qu'il ne se laisserait pas capturer facilement. Et même si on planifie tout minutieusement, une fusillade est toujours possible.
Thank you. Camden, au New Jersey. Charlie Rodriguez était soupçonné d'avoir blessé un policier et d'avoir commis plusieurs vols de banque. Le 27 août 1998, les agents John Tam et Jim Walsh, du FBI, avaient mis au point une opération complexe visant à arrêter le dangereux fugitif et sa bande. Près de 100 agents et policiers étaient en position à une aire de repos de l'autoroute. Mais Charlie et sa bande ne vinrent pas.
On se demandait ce qu'on avait pu faire de mal. Avait-il découvert le poteau rose? Soupçonnait-il notre informateur?
Les agents étaient inquiets pour leur informateur, un ex-policier qui avait infiltré la bande de Rodriguez. Si Charlie Rodriguez apprenait qu'il avait été piégé, il tuerait à coup sûr l'informateur du FBI.
Tôt ce matin-là, l'informateur m'a appelé pour m'annoncer que les frères Rodriguez qui devaient le rencontrer à son appartement de Merchantville n'étaient pas encore arrivés.
On lui a alors dit d'essayer de contacter Joseph afin de savoir pourquoi il n'était pas venu comme prévu.
Malgré les risques qu'il courait, l'informateur accepta de parler à Joseph. Joseph lui annonça que la veille, des policiers étaient venus car ils cherchaient un des hommes de la bande, Ross et Soto. L'informateur appela les agents du FBI pour leur annoncer la nouvelle.
Le bureau du shérif avait un mandat contre José Soto pour défaut de paiement de la pension alimentaire de son enfant. Ça avait fait peur aux voleurs et ils avaient décidé de ne pas aller de l'avant avec leur plan.
L'agent Walsh demanda aux policiers de dire à Soto qu'il ne voulait qu'une seule chose de lui, la promesse qu'il paierait la pension alimentaire comme prévu. Les frères Rodriguez et Soto furent soulagés. Le lendemain, Joseph rencontra l'ex-policier près du pont Benjamin Franklin pour lui annoncer que Charlie avait choisi une nouvelle date pour le vol, le 1er septembre. L'opération lancée par le FBI allait suivre son cours comme prévu. Le matin avant le vol, l'informateur du FBI attendit l'arrivée de la bande à son appartement.
Jusque-là, notre informateur n'avait pas revu Charlie Rodriguez depuis le début de toute cette affaire.
Il rencontra finalement Charlie en personne.
Charlie, c'est bien de te voir.
Notre informateur a alors eu l'occasion de sortir et d'aller chercher du jus d'orange et des beignets pour les hommes.
Il en profita pour appeler l'agent Tam. Le vol serait commis comme prévu. À l'appartement, les hommes enfilèrent leurs gilets pare-balles et ils vérifièrent leurs armes. L'informateur du FBI mit une casquette facilement identifiable.
On lui a demandé de mettre une casquette particulière, ainsi on saurait que c'était notre informateur.
Les voleurs partirent alors vers l'aire de repos à bord de deux voitures. Les agents affectés à leur surveillance informaient régulièrement leurs collègues de l'endroit où ils étaient afin qu'on puisse évacuer l'aire de repos avant leur arrivée.
On a bloqué l'accès à l'aire de repos et à l'autoroute en l'espace de 10 ou 15 minutes.
L'informateur gara l'une des voitures volées dans un quartier voisin. La voiture devait servir aux hommes lorsqu'ils s'enfuiraient après le vol. Il conduisit ensuite Soto et les frères Rodriguez sur la voie d'accès qui se trouvait derrière la halte routière. Les agents du FBI, qui étaient déjà sur place, se préparaient à passer à l'action.
Ils savaient tous que cette opération était risquée. Notre informateur courait un grave danger, tout comme plusieurs agents et policiers.
L'unité SWAT du FBI attendait à bord d'un camion de livraison.
Des tireurs d'élite étaient postés sur le toit du bâtiment principal au cas où les voleurs descendraient de voiture, qu'ils chercheraient à s'enfuir ou qu'ils feraient feu sur des agents ou sur quiconque.
Près de 100 policiers étaient cachés un peu partout autour de l'aire de repos. L'informateur conduisit la bande sur la voie d'accès derrière l'aire de repos.
Notre homme s'est garé exactement là où on le lui avait indiqué.
Notre plan consistait à rendre leur véhicule hors d'état de fonctionnement en l'emboutissant avec la remorqueuse. Ainsi, les armes leur tomberaient des mains et l'unité SWAT prendrait alors le relais.
L'agent qui conduisait la remorqueuse attendait le signal. Il passerait à l'action dès que l'informateur descendrait de la voiture.
Notre principale préoccupation était de mettre notre informateur en sécurité. Une fois qu'il serait descendu de voiture, je me disais que tout irait bien.
Mais avant que l'informateur n'ait eu le temps de s'éloigner de la voiture, Charlie eut l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. Il l'obligea à remonter à bord, empêchant ainsi à l'unité SWAT d'entrer en action. L'agent Tam avait une décision difficile à prendre.
J'ai dit à l'unité SWAT de mettre le plan B en action, qui consistait à les prendre d'assaut. Ici aussi, la remorqueuse devait emboutir la voiture.
Le conducteur de la remorqueuse s'apprêtait à foncer sur la voiture des voleurs.
Alors que la remorqueuse approchait, Charlie a dit à notre informateur : quelque chose ne tourne pas rond. C'est un piège. Partons d'ici.
Pour protéger son identité, l'informateur obéit à Charlie. Il s'éloigna rapidement de l'unité SWAT. Un des voleurs tenta alors de tirer sur les agents. Les membres de l'unité SWAT ouvrirent aussitôt le feu.
Quand les coups de feu ont commencé, je crois qu'on a tous eu peur de blesser accidentellement l'informateur.
La remorqueuse emboutit la partie arrière de la voiture des voleurs.
Quand tout ça a été fini et qu'on détenait enfin ces types, on a tous ressenti un immense soulagement et une grande satisfaction que tout se soit si bien déroulé.
Par miracle, l'informateur n'avait subi aucune blessure. Les agents du FBI recueillirent les nombreuses armes à feu de Soto et des frères Rodriguez.
Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un braquage où il y avait autant d'armes à feu et de munitions que ce qu'on a trouvé dans cette auto. Leur puissance de feu était telle qu'ils auraient pu voler 1000 banques.
Parmi les armes se trouvait une AR-15, transformée pour être automatique, une mitrailleuse équipée d'un silencieux et une copie chinoise d'une AK-47, également transformée pour être automatique. Chacun des hommes avait aussi des armes courtes, dont le numéro de série avait été limé, ainsi que des dizaines de chargeurs remplis à pleine capacité. En tout, ils avaient plus de 1000 cartouches.
Les frères Rodriguez étaient des criminels violents. Ils avaient tué et ils tueraient encore. La seule façon de les en empêcher était de les mettre derrière les barreaux pour toujours. Et c'est ce qui est arrivé.
Le 30 mars 2000, José Soto a été condamné par la Cour fédérale à 37 ans de prison pour tentative de vol d'un fourgon blindé et pour port d'armes illégales. Quant à Charlie et Joseph Rodriguez, ils ont tous deux écopé de peines de réclusion à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour deux vols de banque, pour tentative de vol d'un fourgon blindé et pour port d'armes illégales. Un homme ouvre le feu pendant l'heure de pointe. Un groupe de terroristes complote pour renverser le gouvernement. Un membre de la police abat une innocente jeune femme. Un voleur s'attaque à répétition à des banques. Et un homme enlève et tue une jeune fille de 17 ans. Quand des crimes violents sèment la terreur au sein de la nation américaine, le FBI fait l'impossible pour arrêter les coupables avant qu'ils ne récidivent. Voici Robert S. Mueller, le directeur du FBI.
À l'origine, le FBI a été mis en place pour enquêter sur les crimes commis en dehors des limites d'un seul État. Le pays devait disposer d'une force policière fédérale pour mener ces enquêtes. Avec les années, la population s'accroît sans cesse. Et pourtant, notre planète semble devenir de plus en plus petite. La mission du FBI s'est peu à peu modifiée pour nous permettre de faire face à toutes sortes de menaces.
En octobre 1995, la famille Shaw se retrouva au cœur d'un cauchemar. Trois hommes cagoulés avaient fait irruption dans leur maison en Caroline du Sud. Deux d'entre eux séquestrèrent les membres de cette famille pendant que leur chef forçait Amy Shaw à lui ouvrir la chambre forte de la banque où elle était caissière. Il s'enfuit avec un butin de 80 000 dollars tout en laissant Amy indemne. Mais avant de partir, il appela ses complices pour leur dire que le boulot était terminé et qu'ils pouvaient s'enfuir. Une fois les ravisseurs partis, les Shaw appelèrent la police. Lors de leur patrouille, des policiers trouvèrent deux hommes qu'ils mirent en détention. Comme les tireurs étaient cagoulés lors du crime et qu'ils n'avaient laissé aucune empreinte digitale derrière eux, les policiers étaient incapables de prouver leur culpabilité. Au poste de police, les deux jeunes hommes firent leur déposition. Ils niaient catégoriquement avoir participé au crime. Mais les autorités avaient des doutes sur eux. Les agents du FBI savaient qu'ils devraient obtenir des aveux de leur part et prévoyaient recourir à des techniques d'interrogation particulières. Voici Grant Ashley, le directeur adjoint des services chargés de l'application de la loi.
Quand on obtient son diplôme de l'école de formation, on en sait déjà beaucoup. Mais la vraie formation commence à la sortie de l'école, lorsqu'on travaille sur des enquêtes. C'est là qu'on apprend à connaître la nature humaine. On apprend à poser les questions d'une certaine façon, que les réponses soient crédibles ou non.
L'agent spécial Jerry Jones commence à l'interrogatoire de l'un des suspects. Comme la plupart des agents, il commença par poser des questions n'ayant aucun lien avec l'affaire. Ça lui donnait le temps de choisir la stratégie appropriée.
Ça devient comme une seconde nature. En parlant à ces types, on en vient à savoir quelles sont leurs plus grandes peurs, leurs faiblesses, en ce qui a trait à leur passé, à leur famille, ou à quoi que ce soit d'autre. Dans ce cas-ci, le suspect craignait la peine de mort plus que tout.
Comme le suspect ignorait qu'Amy Shaw, la jeune caissière, était saine et sauve, l'agent Jones décida d'exploiter cette situation.
Je lui ai dit que ce qui m'inquiétait le plus, c'était la sécurité de la caissière. Si le troisième complice l'avait tuée, les deux autres pourraient être condamnés à mort.
Le plan fonctionna. Quand le suspect se rendit compte qu'il risquait la peine de mort, il reconnut avoir été mêlé au crime et donna le nom du chef de la bande, Christopher Joburg. Les policiers arrêtèrent rapidement Joburg chez sa mère, près de la frontière de l'État en Géorgie. Il fut reconnu coupable de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Mais Joburg n'allait pas s'arrêter là. Avant le prononcé de sa peine, il s'évada de prison avec un voleur de banque, Jerome Frierson Bay. Les autorités fermèrent aussitôt le secteur à la circulation. Malgré des recherches poussées, on ne retrouva pas les deux évadés. L'agent Jones savait que lorsqu'on recherche un fugitif, toutes les informations personnelles dont on dispose à son sujet peuvent aider à prévoir où il ira. Or, au cours des nombreux interrogatoires menés avant le procès, Jones avait senti que Joe Burke avait un lien particulièrement étroit avec sa mère.
Il est devenu évident que la personne la plus importante pour lui était sa mère. J'étais convaincu que tôt ou tard, il chercherait à la voir.
Les agents suivirent, presque à la trace, les deux fugitifs par le biais des nombreux vols de banque qu'ils commirent le long de la côte Est. Au New Jersey, les autorités localisèrent finalement Frierson Bay et il fut arrêté. Les agents furent déçus quand ils constatèrent que Joe Burke n'était plus avec lui. Mais l'agent Jones eut alors une intuition.
J'ai toujours pensé qu'il rentrerait chez lui.
On retraça finalement le fugitif à Atlanta, où il vivait sous un pseudonyme. Joe Burke n'opposa aucune résistance lors de son arrestation. Il fut remis derrière les barreaux et condamné à l'incarcération à vie.
Avec le temps, on développe une certaine expertise qui nous permet de comprendre quelqu'un, de sentir quel lien il a avec sa famille, par exemple.
L'instinct et l'expérience de l'agent Jones ont joué un rôle primordial dans la résolution de cette affaire. Parfois, ce sont les efforts conjugués des agents de toute une équipe qui permettent d'amener un criminel en justice. Seattle, 1992. Un homme armé commit une série d'audacieux vols de banque, menaçant de tuer quiconque se mettrait en travers de sa route. Les agents le surnommèrent Hollywood, car il portait des costumes et des masques lors de ses braquages. Au cours d'une période s'échelonnant sur 3 années, l'homme vola 12 banques, amassant ainsi un butin de près $1 million et laissant derrière lui peu d'indices. Pour capturer ce criminel insaisissable, la police de Seattle et le FBI devraient joindre leurs efforts à ceux de plusieurs autres services de police en formant un groupe d'intervention. Voici le directeur adjoint, Grant Ashley.
On a mis en commun les ressources de l'État et celles des services de police locaux, en plus de celles du FBI, afin de mettre à profit les connaissances et les habiletés de chacun. On voulait obtenir rapidement des résultats.
Mais les policiers ne partagent pas toujours le point de vue des agents fédéraux. Les dirigeants du FBI confièrent la supervision du groupe d'intervention de Puget Sound à l'agent spécial Ellen Glasser.
Il devait y avoir une douzaine de services de police. Chacun d'entre eux avait une mission et une intention différentes. C'était intéressant de voir les façons de faire de chacun et les différentes lignes de conduite. Travailler ensemble dans un même but a donc posé tout un défi.
L'enquêteur Mike Magan de la police de Seattle faisait partie du groupe d'intervention.
Je me percevais un peu comme un invité au sein du FBI. Vous savez, on respecte beaucoup les agents du FBI, mais il y a beaucoup d'obstacles à surmonter, de préjugés, comme si on jugeait de la valeur d'un livre à partir de sa couverture. On devait mettre son ego de côté et ne pas s'offusquer du fait que la direction des opérations ait été confiée à une personne du FBI et que les policiers n'étaient que des subalternes. On est finalement parvenu à s'entendre.
Le groupe ne pourrait remplir sa mission que si toutes les personnes réunies pouvaient travailler en équipe.
On devait s'assurer quotidiennement que les informations étaient relayées à tous. Moi, je crois que si l'on se concentre prioritairement sur les relations entre les individus et qu'on fait tout pour travailler ensemble, la mission progressera d'elle-même.
La ligne de conduite adoptée par Glasser permit de donner une certaine cohésion à l'escouade. Le groupe d'intervention finit par travailler comme une seule unité. On releva les constantes dans les crimes d'Hollywood et on étudia leur fréquence pour réagir le plus vite possible quand ils frapperaient de nouveau. Les efforts des agents et des policiers portèrent fruit. Le 27 novembre 1996, on fit de Hollywood le suspect numéro 1 après un vol de banque à main armée. Grâce au travail du groupe d'intervention, la police put localiser et piéger le voleur qui se cachait dans une caravane. Celui-ci mit tragiquement fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête.
Même si les membres du groupe d'intervention avaient tous des talents différents, ils sont parvenus à faire cause commune et à travailler de façon très efficace.
Les agents du FBI qui travaillent sur le terrain se méritent souvent les honneurs quand une affaire est résolue. Mais les experts hautement qualifiés du laboratoire judiciaire du FBI à Quantico en Virginie méritent aussi leur part d'honneur. Ce sont plus que des scientifiques en blouse blanche. Ce sont des enquêteurs très imaginatifs, dont le travail acharné permet la résolution de nombreuses enquêtes. Dwight Adams est le directeur adjoint du labo.
Je tenais à travailler au sein du laboratoire du FBI parce que c'est un labo de renommée internationale. Toutes les personnes qui travaillent ici se donnent à 100%. Notre but unique, c'est de découvrir la vérité et de fournir les résultats les plus précis et les plus fiables possibles.
Le 11 janvier 1982, le policier George Gwaltney, de la patrouille routière de la Californie, signala à la centrale qu'une personne s'était vraisemblablement suicidée au bord de l'autoroute 15, près de Barstow. Quand les policiers arrivèrent en renfort, ils trouvèrent Robin Bishop, une jeune femme de 23 ans, morte d'une blessure de projectile à la tête. Les policiers ne trouvèrent toutefois pas d'armes à feu sur les lieux, mais ils remarquèrent la présence de traces de menottes au poignet de la jeune femme. À l'évidence, ce n'était pas un suicide, mais plutôt un meurtre. Le permis de conduire et le certificat d'enregistrement de la voiture de la victime étaient bien en évidence, comme si elle avait dû les montrer à quelqu'un. Pour écarter la thèse du meurtre par un policier, les enquêteurs ordonnèrent à tous les policiers de leur remettre leurs armes de service pour les soumettre à des analyses balistiques. Un seul policier omit de remettre son arme, George Gwaltney, qui déclara que son arme avait été volée. Gwaltney éveilla les soupçons des enquêteurs lorsqu'on retrouva dans sa camionnette son 357 en pièces détachées. Le canon de l'arme avait été enlevé. Or, c'était la seule pièce qui aurait pu démontrer formellement que l'arme avait bel et bien tiré le projectile ayant coûté la vie à Robin Bishop. On trouva également une boîte de munitions dans le placard de la chambre de Gwaltney. Ces munitions étaient de la même marque que le projectile qui avait tué la jeune femme. À la fin de 1982, l'État de la Californie accusa formellement George Gwaltney de meurtre. Le procès dut toutefois être ajourné pour défaut d'unanimité au sein du jury. Un second procès, cette fois devant la Cour supérieure, connut la même issue. Les enquêteurs étaient persuadés que Gwaltney était coupable, mais ils ne pouvaient pas le faire inculper par les autorités de l'État. Ils se tournèrent alors vers les autorités fédérales. L'agent spécial Michael Randolph examina le dossier de l'affaire et constata que Gwaltney était si rusé qu'il serait difficile, voire impossible, de le faire condamner. Pour le faire accuser, il faudrait l'extraordinaire ténacité des agents du FBI et des experts du laboratoire judiciaire. Voici le directeur adjoint du FBI, Grant Ashley.
La technologie est un outil fantastique, mais l'aspect le plus important pour le FBI est le facteur humain.
L'expert Jim Cadigan, du service des armes à feu et des marques d'outils, chercha à établir un lien entre les indices et le suspect. Normalement, il aurait dû comparer les rainures du canon de l'arme aux marques sur le projectile meurtrier. Mais comme le canon de l'arme présumé du crime manquait, Cadigan dut trouver une nouvelle façon de découvrir la vérité. Il savait que les enquêteurs avaient confisqué des pincettos et des clés après avoir trouvé la carcasse du revolver.
Je me demandais si l'un de ces outils n'avait pas servi à tenir la carcasse de l'arme pendant qu'on enlevait le canon.
Cadigan fit l'analyse de marques d'outils. Il remarqua une petite trace sur la carcasse de l'arme. Il vérifia ensuite chacun des outils de Gwaltney jusqu'à ce qu'il trouve une clé dont une des dents était brisée.
Ça ressemblait beaucoup à la marque sur la carcasse. J'ai alors commencé à faire des marques avec cette clé, marques que j'ai ensuite comparées au microscope. J'ai pu en conclure que seul cet outil et aucun autre avait produit les marques observées sur la carcasse de l'arme.
Même si cela indiquait que Gwaltney avait vraisemblablement enlevé lui-même le canon de son arme, ça ne prouvait pas qu'il avait tué Robin Bishop. Les enquêteurs ne disposeraient d'un dossier solide que lorsqu'ils établiraient un lien entre le projectile fatal et la boîte de munitions trouvée dans le placard de Gwaltney. La direction du labo décida alors de tenter, pour la toute première fois, une technique mise au point depuis peu qui consistait à comparer les projectiles à un niveau moléculaire. L'agent spécial Michael Randolph.
Quand un fabricant de balles comme la Remington Arms fabrique un nouveau lot, il mêle plusieurs éléments, un peu comme lorsqu'on fait un pâté. Ainsi, chaque lot de balles est unique.
Lors du premier examen balistique à l'échelle nucléaire, les experts placèrent un fragment de l'un des projectiles de Gwaltney dans un réacteur nucléaire où il absorba des neutrons et devint radioactif. Grâce à cette radioactivité, on pourrait mesurer la quantité exacte de chaque composante du projectile. C'était en quelque sorte une empreinte digitale. Les experts soumirent ensuite le projectile fatal au même procédé.
Finalement, on a découvert qu'environ 27 projectiles trouvés chez le suspect étaient de composition identique aux fragments prélevés dans la tête de notre victime.
En janvier 1984, George Gwaltney comparut devant les tribunaux fédéraux cette fois-ci. Grâce à l'ingéniosité et à la détermination des experts du labo du FBI, il fut reconnu coupable et condamné à 90 ans de prison. Voici le directeur adjoint du FBI, Grant Ashley.
Voici les héros dont vous n'entendez jamais parler, les experts de laboratoire qui donnent un sens à tous nos indices. Ça demande beaucoup de temps et ça demande également des gens talentueux et persévérants.
Pour prouver la culpabilité d'un criminel, les preuves scientifiques sont un outil essentiel. Mais quand les autorités ne disposent même pas d'un suspect ni d'indices valables, le FBI doit leur faire appel à une discipline unique et méconnue, la science du profilage. Le 31 mai 1985, sur une route isolée de Lexington, en Caroline du Sud, Shari Faye Smith, âgée de 17 ans, était allée chercher le courrier dans sa boîte à lettres quand elle disparut sans laisser de traces. Après deux jours de vaines recherches, les enquêteurs durent se rendre à l'évidence. La jeune femme avait été enlevée. Tôt le lendemain matin, leurs pires craintes s'avérèrent quand le ravisseur appela la famille de la jeune femme. Celui-ci leur dit qu'ils allaient éventuellement revoir leur fille et qu'ils recevraient une lettre de lui plus tard dans la journée. Quand la lettre arriva, la famille de la jeune femme fut horrifiée. Le document écrit de la main de Shari avait pour titre « Mon testament ». En Caroline du Sud, une jeune femme avait été enlevée. Sa vie était en danger et les enquêteurs ignoraient tout de l'identité du suspect. Dans l'espoir de découvrir quel genre d'individu pouvait avoir enlevé Shari Faye Smith, ils firent appel aux experts en profilage du service des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie. Les experts sont des enquêteurs d'expérience qui ont reçu une formation spécialisée en criminologie et en psychologie appliquée. L'agent John Douglas, aujourd'hui à la retraite, a participé au développement de cette spécialité qui consiste à dresser le profil psychologique d'un criminel. Pendant plus d'une décennie, il a interrogé des meurtriers, des incendiaires, des violeurs et des ravisseurs dans plusieurs prisons un peu partout aux États-Unis.
On plonge au cœur de leur mémoire, là où personne n'est jamais allé auparavant, au moment même où ils commettent leur crime. Ça prend beaucoup de temps pour arriver là, mais quand on y est, on obtient des tonnes d'informations.
Quand il établit le profil d'un individu, Douglas doit d'abord examiner tout le dossier d'enquête qui contient notamment les rapports de police préliminaires et les photographies de la scène de crime.
On doit disposer de toutes les informations relatives à la victime. On doit dresser le profil de cette victime. On se demande pourquoi cette personne a été ciblée par le criminel. Ensuite, on examine la façon dont le crime a été perpétré. S'agissait-il d'un crime à haut risque ou pas, par exemple? Parfois, les profils peuvent compter jusqu'à une centaine de caractéristiques différentes.
À la demande des autorités de la Caroline du Sud, Douglas se pencha sur le dossier de l'affaire Shari Faye Smith et examina tous les détails relatifs à son enlèvement.
Ce qui rendait cette affaire unique, c'était que le ravisseur était entré en contact avec la famille, ce qui est très, très rare, très inhabituel. C'était très précieux pour moi, car lorsqu'on dispose d'une communication, qu'elle soit orale ou écrite, ça nous permet de faire une analyse assez fine de la personne qu'on recherche. C'était comme s'il avait suivi un scénario établi d'avance. Ce type devait être très ordonné, très organisé.
Après avoir examiné tous les détails relatifs à l'enlèvement, Douglas dressa un profil du ravisseur en 22 points. Le sujet était vraisemblablement un homme qui avait des antécédents judiciaires et qui vivait dans la même région que la victime.
Ce type commettait ses crimes et se débarrassait de ses victimes dans des endroits qui lui étaient familiers.
Douglas croyait également que le ravisseur compensait la faible opinion qu'il avait de lui-même en commettant des actes violents.
Il se sentait comme s'il ne valait rien, comme un moins que rien. Et comment ce type, qui n'avait aucune estime de lui-même, qui faisait sans doute de l'embonpoint et qui n'était pas très beau, comment pouvait-il devenir quelqu'un? Eh bien, il s'en prenait à des victimes qui, normalement, n'auraient jamais eu de contact avec lui, comme Sherry Faye Smith. Et pour la première fois de sa vie, il ressentait de la puissance.
Deux jours après avoir appelé la famille de la victime, le ravisseur rappela pour donner des indications très précises sur l'endroit où se trouvait la jeune femme. Les enquêteurs se ruèrent sur les lieux, en espérant trouver la jeune femme encore en vie. Mais à leur arrivée, leurs pires craintes furent confirmées. Sherry Faye Smith était morte. Son corps, exposé à la chaleur intense et aux intempéries pendant plusieurs jours, était dans un état de décomposition si avancé qu'il fut impossible de déterminer la cause précise du décès et le moment où il était survenu. Pour l'expert en profilage, les indications précises sur l'endroit où se trouvait le corps de Sherry et l'état de cette scène de crime en disaient long sur le meurtrier.
Ça indiquait qu'il était venu sur place à plusieurs reprises parce qu'il avait été très précis sur la distance à parcourir. Il avait même indiqué le nombre de mètres à faire pour la trouver. Ça m'indiquait aussi que ce criminel avait une certaine expérience, car il avait attendu que le corps soit dans un état de décomposition trop avancé pour que les autorités puissent l'identifier facilement.
Dans la soirée qui suivit les funérailles de Sherry, le meurtrier appela à plusieurs reprises pour parler à la sœur de la victime, Dawn.
Hello?
This thing got out of hand, and all I wanted to do was make love to Dawn. I've been watching her for a couple of
weeks. To who?
Au cours de cette terrifiante conversation, le meurtrier avait utilisé le nom de Dawn plutôt que celui de Sherry. Les enquêteurs craignaient qu'il se tourne maintenant vers Dawn pour faire d'elle le centre de ses obsessions meurtrières. Après deux semaines de silence, le meurtrier refit surface. Il eut l'audace d'enlever Deborah May, âgée de 9 ans, en plein jour, alors qu'elle jouait devant sa maison. Après avoir enlevé Sherry Faye Smith, le meurtrier avait appelé sa famille à maintes reprises. Mais depuis quelque temps, il gardait le silence. Douglas devrait mettre un plan au point pour le faire sortir de sa tanière. Comme les criminels de ce type lisent habituellement les articles qui parlent de leurs crimes, il décida d'organiser un service commémoratif dont les quotidiens feraient certainement la couverture. Il espérait ainsi que Dawn, la sœur de Sherry, réveillerait les obsessions meurtrières du ravisseur. Celui-ci mordit à l'hameçon et il appela Dawn. Puis, avant de raccrocher, le meurtrier donna à Dawn une série d'indications routières.
Okay, listen carefully. Go one north, turn right. Deborah May is waiting. God forgive us all.
Les enquêteurs suivirent les indications du ravisseur et trouvèrent le corps de la petite Deborah May Elmick. Douglas croyait que le tueur chercherait bientôt à enlever Dawn. Entre-temps, les experts judiciaires utilisèrent une technique de détection électrostatique leur permettant de discerner les reliefs de l'écriture du testament de Sherry Faye à l'endroit du papier sur lequel il était écrit.
Les informations obtenues leur permirent de trouver le nom d'un suspect. Il s'agissait de Larry Jean Bell, un col bleu qui travaillait dans le secteur. En interrogeant des gens qui le connaissaient, les policiers constatèrent qu'il correspondait en tout point au profil dressé par Douglas. Les autorités arrêtèrent Bell. Grâce aux analyses judiciaires et à l'expertise de Douglas, on a pu faire reconnaître Bell coupable de deux meurtres. Il a été exécuté le 4 octobre 1996. Dans cette affaire, Douglas a joué un rôle crucial dans l'identification d'un meurtrier dont on ne savait rien. Les experts en profilage peuvent également étayer les soupçons des enquêteurs à propos d'un suspect. En 1983, des patrouilleurs de la police de l'Alaska enquêtaient sur le premier cas de meurtre en série. Des dizaines de femmes, la plupart d'entre elles étant des danseuses érotiques et des prostituées, avaient disparu. On avait retrouvé le corps de quelques-unes d'entre elles dans des tombes peu profondes, près desquelles on avait recueilli des douilles de projectiles 223. Les policiers avaient un suspect en tête, un homme de la région, Robert Hansen. Un an plus tôt, une prostituée avait déclaré aux policiers d'Anchorage qu'elle avait été enlevée et torturée par Hansen avant de lui échapper. Les policiers d'Anchorage interrogèrent les amis d'Hansen qui corroborèrent l'alibi du suspect. Ils fouillèrent ensuite sa maison et sa voiture, mais ne trouvèrent aucun indice valable. Ils abandonnèrent l'enquête. Les enquêteurs croyaient qu'Hansen, qui gérait sa propre boulangerie, n'avait rien d'un tueur. Mais après avoir pris connaissance des déclarations de la prostituée, les enquêteurs de l'État en vinrent à se demander s'il n'était pas le tueur en série qu'ils recherchaient. Ils contactèrent alors l'agent spécial John Douglas du FBI pour lui demander de l'aide.
Il ne voulait pas que j'établisse un profil. Il disposait d'un suspect et voulait que je leur dise, après avoir examiné les caractéristiques de cet individu, si, oui ou non, c'était un homme capable de poser des gestes aussi violents.
Le fait que le meurtrier ait tué autant de personnes à l'insu de tous indiquait à Douglas qu'il était peut-être son propre patron. Comme les corps avaient été retrouvés dans des secteurs isolés, le tueur était vraisemblablement un amateur de plein air. Or, Hansen correspondait bien à ce profil. Il dirigeait sa propre entreprise et il chassait dans ses loisirs. Mais pour démontrer qu'il était coupable, les enquêteurs devaient trouver des preuves. Et pour obtenir un mandat de perquisition de sa maison, ils devaient convaincre un juge du bien fondé de leurs soupçons en lui indiquant ce qu'ils espéraient y trouver. L'expert en profilage apporta de nouveau sa contribution à l'enquête. Après avoir confirmé les soupçons des policiers, il les aida à rédiger un mandat de perquisition. On devait se mettre à la recherche de l'arme qui avait laissé les douilles de projectiles 223 retrouvées près des corps. Les enquêteurs demandèrent à Douglas s'il voulait ajouter quoi que ce soit d'autre au projet de mandat.
On était aux prises avec un tueur en série. Ces types vivent ces expériences comme des fantasmes. Et une des choses qui alimente ces fantasmes après le crime, c'est un souvenir ou un trophée, quelque chose qui appartenait à la victime. Ce n'est pas nécessairement un objet de valeur. Ça peut être une montre bon marché ou des bijoux de fantaisie. Les tueurs conservent ces objets. Ils les gardent dans des endroits secrets, comme dans le vide sanitaire de leur maison ou le grenier, sous la couche d'isolant.
Douglas aida les procureurs à rédiger le document qui comptait 48 pages. Un juge approuva le mandat de perquisition. Au cours des recherches dans la maison d'Hansen, les experts trouvèrent les trophées dont avait parlé Douglas, notamment les cartes de visite de quelques-unes de ses victimes. Ils trouvèrent également plusieurs armes, notamment une carabine de marque Ruger, de calibre 223. Les analyses balistiques démontrèrent que c'était bien l'arme qui avait tiré les douilles trouvées sur plusieurs scènes de crime. Mis devant les faits, Hansen finit par passer aux aveux. Il déclara avoir tué 4 femmes et fut condamné à une peine d'emprisonnement de 461 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que les experts en profilage dressent le profil psychologique de certains criminels, les agents sur le terrain, eux, se servent de leur instinct, de leur expérience et de leur logique pour entrer dans l'esprit du criminel et découvrir ce qui l'a poussé à commettre ces crimes. Le matin du 25 janvier 1993, un tireur fou ouvrit le feu devant le quartier général de la CIA à Langley, en Virginie. Il tua 2 employés de la CIA et en blessa plusieurs autres. En 1993, un tireur, armé d'une AK-47,
donna libre cours à sa fureur devant le quartier général de la CIA, faisant 2 victimes et blessant 2 autres personnes sous une pluie de projectiles. L'agent spécial Brad Garrett arriva sur les lieux et tenta d'établir le mobile de cette attaque.
La première chose à faire quand on arrive, c'est d'examiner ce qui semble évident. Dans ce cas-ci, il était clair que la cible de ce type était la CIA. Il pouvait avoir visé les personnes qu'il avait tuées, mais c'était à l'évidence quelqu'un qui avait voulu faire une démonstration publique en commettant ce crime à l'heure de pointe. Ça pouvait nous servir de point de départ. Quand on commence une enquête, on cherche toujours à établir des liens entre la victime et le meurtrier, parce qu'avec un lien, l'enquête sera plus facile à résoudre. Quand il n'y a pas de lien, c'est beaucoup plus compliqué. Mais lors de l'examen du passé des victimes et des circonstances entourant leur décès, on n'a pas pu trouver de lien entre elles et le meurtrier. On a alors cherché à découvrir s'il n'y avait pas, au sein de la CIA, des employés mécontents, des gens qui auraient pu vouloir se venger. Mais malgré nos recherches, on n'a rien trouvé de concluant. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Eh bien, on essaie d'être logique. On avait la description du type qui avait épaulé sa carabine et avait fait feu. C'était, sans contredit, quelqu'un qui détestait la CIA.
En examinant à la fois la liste des acheteurs récents d'AK-47 et la description physique du tueur, les enquêteurs identifièrent finalement un suspect, un immigrant pakistanais, Miramal Khansi, âgé de 28 ans. Garrett put trouver un mobile au suspect en interrogeant ses amis, notamment son colocataire. Les interrogatoires permirent d'établir que Khansi était de plus en plus mécontent des politiques étrangères du gouvernement américain et qu'il planifiait un gros coup contre la CIA, la Maison Blanche ou l'ambassade d'Israël. Malheureusement, l'enquêteur découvrit que Khansi était parti au Pakistan ou en Afghanistan. Pour amener le fugitif aux États-Unis et le faire comparaître devant les tribunaux, Garrett devrait prévoir quels obstacles pourraient lui barrer la route et trouver un moyen de les contourner. Après une poursuite de 4 ans et demi, l'agent Garrett apprit que Khansi se cachait dans un hôtel, au Pakistan. Mais quand il se rendit sur place pour l'arrêter, il rencontra un obstacle de taille.
J'ai eu peur quand je suis entré dans la chambre et que je l'ai vu. Il ne ressemblait en rien à la photo que j'avais du suspect. Il avait pris du poids, il portait une barbe. J'ai regardé les 3 autres agents et je leur ai dit que je n'étais pas sûr que nous tenions le bon type.
Garrett devait absolument être sûr de ce qu'il faisait avant de l'arrêter. Tant qu'il n'aurait pas identifié le suspect, il ne pourrait pas le ramener aux États-Unis.
Je ne voulais pas quitter cette chambre sans être absolument sûr que l'individu auquel on avait passé les menottes et qui était étendu sur le lit était bien Miramal Khansi.
Le seul moyen pour l'agent Garrett de l'identifier formellement était de prendre ses empreintes digitales, un travail normalement réservé aux experts en laboratoire qui se trouvaient à plusieurs milliers de kilomètres de là, à Washington. Heureusement, l'agent Garrett avait tout prévu.
J'étais allé au service d'identification des empreintes digitales du FBI et j'avais travaillé avec les experts en dactyloscopie. Ceux-ci avaient la fiche contenant les empreintes des 10 doigts de Khansi. On les a étudiées pendant plusieurs jours et on a identifié toutes les caractéristiques uniques de façon à pouvoir les reconnaître quand on lui mettrait la main au collet.
Maintenant, Garrett devait mettre à profit ce qu'il avait appris.
Il était menotté et couché sur le ventre. J'ai sorti mon tampon encreur et j'ai pressé son pouce dessus. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier blanc sur laquelle j'ai imprimé son pouce. Je me suis assis par terre et j'ai examiné l'empreinte à l'aide d'une torche électrique et d'une loupe.
La concordance était parfaite. Grâce à sa prévoyance, l'agent Garrett pourrait ramener le présumé terroriste aux États-Unis pour qu'il subisse son procès. Miramal Khansi fut reconnu coupable de meurtre,
d'avoir commis des actes malveillants et d'avoir utilisé une arme à feu dans le but de commettre un acte délictueux grave. Il fut condamné à mort et exécuté en 2002. La formation et l'expérience de l'agent spécial Brad Garrett l'ont aidé à résoudre cette affaire. Parfois, l'atout principal d'un agent est sa capacité de s'adapter aux nouvelles situations et d'agir sur le moment. Voici le directeur adjoint du FBI, Grant Ashley.
Voici des personnes qui veulent gagner à tout prix. Elles ne travaillent pas uniquement pour avoir leur chèque de paye.
1985. Dans les collines de l'Arkansas, une armée d'extrémistes complotait pour renverser le gouvernement américain. Ses membres propageaient une doctrine de haine et de mort et lançaient des raids contre des églises et des synagogues. Les agents du FBI devaient absolument démanteler ce groupe lourdement armé, tout en évitant un bain de sang. Une piste mena les agents aux installations du CSA, le groupe The Covenant, The Sword and the Army of the Lord, des suprémacistes radicaux. La propriété était fortifiée et les hommes à l'intérieur étaient armés jusqu'aux dents. Ils disposaient de grenades, de dizaines d'armes automatiques et même d'une puissante roquette anti-char. Les enquêteurs devaient leur présenter des mandats d'arrêt et de perquisition. Il était contre-indiqué de faire appel à une unité SWAT, comme on aurait normalement dû le faire, car la situation était délicate. Des rapports indiquaient que des femmes et des enfants se trouvaient à l'intérieur des murs de la propriété. Des centaines de vies étaient en jeu. La marge d'erreur était très mince. Les autorités qui enquêtaient sur cette affaire n'avaient ni la compétence, ni les capacités de prendre d'assaut la propriété du CSA. Et la Constitution américaine empêchait l'armée d'intervenir dans cette enquête civile. Le FBI décida alors d'envoyer un groupe tactique d'élite appelé le Hostage Rescue Team, communément appelé le HURT. Il s'agit de l'équivalent de la Delta Force de l'armée. Le HURT est un groupe d'opérations spéciales contre-terroristes qui intervient uniquement sur le territoire américain. En 1985, l'agent spécial Danny Coulson était le commandant du HURT.
Les membres du HURT sont formés pour neutraliser les terroristes et libérer les otages. Cette situation-ci était toutefois différente. Ces individus étaient lourdement armés et on voulait éviter une confrontation.
Pour effectuer le mandat d'arrêt et de perquisition en toute sécurité, Coulson devait s'adapter à la situation. Comme il était impossible d'envisager un assaut, il mit un autre plan au point.
La réputation du FBI était en jeu dans cette affaire et on pensait que la meilleure façon de procéder serait de dresser un périmètre de sécurité en secret. C'était une opération délicate à réaliser, mais c'était nettement moins dangereux que de prendre la propriété d'assaut.
Au cours de la première étape de l'opération, des équipes de reconnaissance entrèrent dans la propriété en pleine nuit. À l'aide de détecteurs portatifs et de ceux qui se trouvaient à bord d'avion, ils évitèrent les patrouilles du CSA. Après 10 jours de repérage, des tireurs d'élite du HURT signalèrent qu'une patrouille du CSA allait bientôt et sans le vouloir leur tomber dessus. À titre de commandant, Coulson devait prendre rapidement une décision qui risquait de coûter la vie à des centaines de personnes. En 1985, le FBI resserrait l'étau autour du CSA, une organisation paramilitaire d'extrême droite dont la base d'opération était située en Arkansas. Plus de 200 agents avaient entouré secrètement la propriété. Des tireurs d'élite du FBI signalèrent qu'une patrouille du CSA était sur le point de les repérer. Danny Coulson, le commandant du HURT, devait prendre rapidement une décision. S'il faisait le moindre faux pas, il pourrait provoquer un bain de sang. Il prit alors une décision très audacieuse.
Je leur ai dit de crier qu'ils étaient des agents du FBI et de leur ordonner de retourner dans le bâtiment. Mes collègues m'ont regardé en disant « Et pourquoi on n'arrêterait pas ces types ?» Mais je ne voulais pas faire ça.
La stratégie de Coulson était calculée au quart de tour.
Je voulais faire peur à ces types, mais je voulais aussi qu'ils comprennent que si je leur donnais un ordre, ils devaient m'obéir. Je voulais qu'ils s'habituent à obéir à mes ordres et à ceux de mon équipe. Deuxièmement, je souhaitais leur montrer que nous n'étions pas là pour leur faire du mal.
Les tireurs d'élite alertèrent les patrouilleurs de leur présence et ils leur ordonnèrent de rentrer dans le bâtiment principal. Ceux-ci leur obéirent.
Mais maintenant, les membres du CSA savaient que des agents du FBI étaient devant leur propriété. Quelqu'un devrait parlementer avec le groupe d'extrémistes pour que le chef se rende.
Le HURT ne compte pas de négociateurs, mais il travaille étroitement avec le service des sciences comportementales de Quantico.
Les agents du FBI tentèrent d'établir quelle serait la meilleure stratégie pour approcher le chef du CSA, sans doute peu enclin à parlementer avec un négociateur.
Il n'accepterait de négocier qu'avec son vis-à-vis, soit le chef du HURT. Or, au FBI, nous avons pour principe de ne jamais permettre au commandant de l'unité de négocier avec l'ennemi, car ça nous coupe certaines options stratégiques. Quand le commandant négocie, c'est plus difficile de gagner du temps ou de jouer sur les rôles opposés d'un négociateur plus conciliant et d'un commandant plus strict.
Malgré cela, le FBI décida malgré tout de laisser Coulson jouer le rôle du négociateur, car il n'y avait pas d'autre solution.
Je n'étais pas à l'aise avec ça. Je viens de groupe d'intervention tactique. J'ai été tireur d'élite, j'ai dirigé une unité SWAT. J'ai été formé pour être sur le terrain, pas pour négocier. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Je préfère de loin capturer un type que d'essayer de le convaincre de se rendre. Mais ils croyaient tous qu'il n'y avait pas d'autre solution.
Coulson, qui avait assisté maintes fois à des négociations, fut formé rapidement sur place. Il s'adapta rapidement à sa nouvelle position. Le chef du CSA établit le contact pour la première fois en appelant le poste de commandement du FBI et en s'adressant à l'agent Coulson.
On a parlé au téléphone pendant quelques minutes de ce qu'on voulait faire. Il a proposé qu'on lui permette de sortir car il voulait me rencontrer et me parler. Mais il désirait également que je lui permette de retourner à l'intérieur, ce que j'ai accepté. Comme c'était aller à l'encontre des politiques du FBI, on a contacté le quartier général, car on ne doit jamais laisser un fugitif recherché ou un terroriste nous filer entre les doigts. La demande a été acheminée au directeur adjoint, qui l'a finalement approuvée.
Après une série de rencontres, le chef du CSA sortit de la propriété. Il déclara à Coulson que plusieurs membres, ainsi que lui-même, souhaitaient se rendre. Mais ce n'était pas le cas de tous. Certains voulaient se battre, et le chef du CSA ne pouvait exercer de contrôle sur eux.
Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Il a dit, « Notre chef spirituel pourrait m'aider à convaincre nos membres qu'ils doivent se rendre. » Et j'ai demandé comment cet homme s'appelait. Il m'a répondu, « Robert Millar. » Encore une fois, c'était contraire aux procédures du FBI. C'était risqué de faire venir un allié de l'ennemi au cœur d'une situation de crise et de lui permettre d'entrer dans la propriété. Ça ne s'était jamais produit avant. Jamais un agent du FBI n'avait permis à un tiers, qui plus est à un sympathisant des extrémistes qu'on voulait arrêter, d'entrer dans la propriété pour participer aux négociations. Mais on devait le faire. C'était très risqué, mais j'estimais qu'on devait courir ce risque.
Coulson reçut l'autorisation du FBI de permettre à Millar de négocier avec les membres du CSA. Millar resta dans le bâtiment pendant près de 24 heures. Le lendemain, soit le quatrième jour du siège, Millar et le chef du CSA sortirent enfin de la propriété.
Ils ont dit, on est parvenu à une entente. Les membres vont sortir et rendre les armes de manière pacifique.
À titre de commandant du HURT, Coulson prit cette nouvelle avec un certain scepticisme.
On imagine toujours le pire scénario. Même les bonnes nouvelles doivent être prises avec scepticisme. S'agissait-il d'une manœuvre de diversion de leur part? Allait-il sortir par la porte de côté et ouvrir le feu? On devait être très prudent.
Coulson donna au chef 15 minutes pour réunir ses membres et les faire sortir.
Peu de temps après, un tireur d'élite nous a signalé qu'il sortait. Selon le tireur, il portait des vêtements civils. Pas des vêtements de camouflage, ni des tenues de combat. Et il ne semblait pas être armé.
Miraculeusement, cette mission du HURT se conclut sans aucun coup de feu.
C'était l'issue qu'on avait tous espérée et on a eu beaucoup de chance que ça se termine ainsi.
N'eût été de l'intelligence vive de Coulson et de sa capacité à s'adapter à cette situation de crise, les négociations auraient pu se conclure dans un bain de sang.
Cela montre bien de quoi le FBI est capable en situation de crise. Ça montre aussi tout ce dont on dispose pour régler un problème. C'est une grosse machine qui peut vous pulvériser si vous lui faites obstacle. Et c'est ce qui est arrivé ici. Ce n'était pas une mission du HURT, c'était une mission du FBI.
On a pu voir quelques-uns des cas que le FBI a dû résoudre au fil des ans. Chaque nouvelle enquête apporte son lot de défis. Mais le public américain peut se rassurer, car le FBI fera toujours l'impossible pour le protéger.